Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous sur Radio Présence pour le 208e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Cette semaine, c'est notre Radio Don et je rappelle que Radio Présence a besoin plus que jamais de votre soutien pour continuer à vous proposer des programmes de qualité et pour financer son fonctionnement et son développement qui nécessite à la fois des moyens techniques et des moyens humains. Nous en appelons donc à votre générosité pour qu'une émission comme Mélomanie puisse se poursuivre sur notre antenne. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter fidèlement. Pour faire un don, vous pouvez nous appeler au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, mais vous pouvez aussi donner directement en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Un grand merci par avance. Pour l'émission du jour, j'ai le plaisir de retrouver mes deux complices favoris présents depuis les tout premiers numéros. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Sans plus attendre, nous allons nous replonger tous les trois dans l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous allons revenir pour commencer sur le premier concert de la saison des Arts Renaissants. Il a eu lieu jeudi dernier, le 17 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Un musicien originaire de notre région et formé au Conservatoire Rayonnement Régional de Toulouse. Le pianiste toulousain Adam Laloum y était en vedette, mais pas en solo, puisqu'il a accompagné la jeune violoniste japonaise Sayaka Shoji dans un programme de sonates de Brahms et Schumann. Robert, on y était tous les deux. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée, de ce programme et de la façon dont il a été exécuté par ces deux musiciens ?
Alors d'abord, je vous disais que c'était l'ouverture de la 40e saison des Arts Renaissants. Donc c'est une saison, comme d'habitude je dirais, mais encore plus peut-être, complètement fastueuse, qui va se terminer l'année prochaine avec une grande soirée avec Jordi Savall. Enfin, ça va être... Cette saison, c'est un feu d'artifice, franchement. Et... Elle débute avec une soirée très exigeante, en définitive, puisqu'elle était consacrée à la forme sonate, à l'occurrence sonate pour piano et violon. Mais pourquoi pas ? Et c'était les compositeurs qui étaient invités, si l'on peut dire, étaient compositeurs qui appartiennent au répertoire romantique, puisque c'était Brahms et Schumann. Alors, au début, on a eu une petite surprise, puisqu'en définitive, contrairement au programme qui nous était donné, ça a été l'inverse qui a été choisi. Voilà. Mais bon, une fois qu'on s'est remis de cette petite émotion, ensuite le programme a débuté. Et voilà. Et alors, il y avait un soliste, donc une jeune violoniste japonaise, qui a été la première de son pays à remporter le prestigieux concours Paganini, ce qui n'est pas rien. Ce qui veut dire que quand même, elle sait jouer du violon et même... Plus que savoir, c'est une immense virtuose du violon. Et alors effectivement, nous avons assisté à un concert très très virtuose, mais tellement virtuose qu'en fait, l'âme romantique que l'on peut trouver dans ces sonates de ces deux compositeurs, éminemment romantiques évidemment, Schumann et Brahms, en fait, n'a pas forcément transpiré dans le jeu de cette violoniste. Alors, en plus... Quelque chose qui était... alors, c'était somptueux au point de vue technique. C'était absolument somptueux. Après, c'est une question d'âme. Et là, je dois dire que c'était un peu la vie générale, franchement. Alors, c'était d'autant plus dommage que la partie piano était interprétée par un artiste que nous connaissons bien à Toulouse, qui a été formé à Toulouse, et qui s'appelle Adam Laloum. Alors, lui, il n'est que velours, que délicatesse de toucher, il n'est que... empathie, n'est que vraiment, il est en communion, il essaie d'être en communion, mais en fait, le problème, on ne sait pas trop comment il a fait, parce que la violoniste lui a tourné le dos pendant toute la soirée, et lui, le pauvre, on le voyait se tordre le cou pour essayer de regarder les coups d'archer, les respirations, enfin, tout ce qui fait que, dans une petite formation de chambre, que ce soit duo, trio ou quatuor, où il n'y a pas de chef d'orchestre, évidemment, les départs, les rythmes se donnent à partir d'un musicien, celui qui attaque le morceau. Et lui, il y avait une telle dichotomie, en définitive, entre le violon et le piano qu'on ne savait pas trop exactement ce qui se passait. Je ne sais pas si Adam Laloum a passé une bonne soirée, mais bon, le public a réclamé gentiment, on va dire un bis. Ils nous ont donné un extrait de deuxième romance de Schumann. Mais bon, à vrai dire, on n'a pas réclamé un deuxième bis, quoi. Voilà. C'est dur de dire ça, parce que, mais en fait, c'était un peu la vie générale.
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que je crois que c'était peut-être la première fois qu'ils jouent ensemble. Moi, je n'ai pas trace de concert de ce duo avant celui aux Arts Renaissants, ce qui pourrait peut-être expliquer qu'il n'y avait pas encore la symbiose nécessaire, d'autant plus dans un programme comme celui qu'ils ont joué. Ça peut expliquer des choses. Bon, après, effectivement, on avait la sonorité extraordinaire d'Adam Laloum, la profondeur du son, la beauté du son. On dit souvent que c'est un poète du clavier, l'expression peut paraître galvaudée,
c'est clairement un poète du clavier. C'est un poète, il a un toucher, il a un perlé.
De ce point de vue, c'était... Bon, ouais. C'était
puis en même temps, il y a une âme dans ce qu'il fait.
Poète du clavier, oui, sinon on n'est pas poète, que ce soit le clavier ou pour autre chose. Mais effectivement, un peu l'impression qu'ils jouaient chacun de leur côté. Lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour rattraper les
ballons.
Pardonnez-moi l'expression.
Oui,
mais effectivement, lui tournait le dos, donc...
Il faisait comme il pouvait. Alors, bon, maintenant, très clairement, nous sommes dans un spectacle vivant. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Après, bon, si on ne veut pas s'exposer à ce genre d'expérience, on écoute des disques et puis on n'en parle plus. Ce qui est quand même beaucoup moins excitant. Hein.
Voilà. Mais on était évidemment très heureux d'entendre
Adam Laloum
à Toulouse. Vraiment. En général, on l'entend au moins une fois par an, ou à Piano Jacobin, ou avec l'Orchestre National du Capitole, ou donc aux Arts Renaissants. Je crois que c'est la première fois qu'il était programmé. Je n'ai pas le souvenir d'y avoir entendu Adam Laloum. Donc c'était bien qu'il soit un jour au programme de cette saison extrêmement prestigieuse à Toulouse, d'autant plus que c'était les 40 ans. Donc c'était bien qu'il y ait un Toulousain. Il y en aura un autre bientôt, puisqu'il y aura Thibaut Garcia au mois de janvier avec Félicien Bru. Mais bon, ça ne retire rien, effectivement, à ce programme extrêmement alléchant de cette 40e saison des Arts Renaissants. Bon, je l'ai dit, le duo est de formation récente, hein, donc je n'ai pas d'extrait à vous faire écouter. Adam Laloum avec Sayaka Shoji jouent ensemble, mais j'en ai un de cette jeune violoniste japonaise associée au grand pianiste Menahem Pressler dans une interprétation du premier mouvement Vivace ma non troppo de la sonate pour violon et piano numéro 1 en sol majeur opus 78 de Brahms, une de celles qui a été jouée avec Adam Laloum mardi. Thank you. Le premier mouvement Vivace ma non troppo de la sonate pour violon et piano numéro 1 en sol majeur opus 78 de Brahms, interprété ici par Sayaka Shoji et Menahem Pressler. Le concert avec Adam Laloum, c'était jeudi, non pas mardi comme je l'ai dit. Prochain concert de la saison des Arts Renaissants, mardi 6 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme, où une autre violoniste, la française Amandine Beyer, va se produire avec l'ensemble franco-italien Gli Incogniti dans un programme entièrement dédié à des concertos de Vivaldi. Il y avait un autre concert le jeudi 17 novembre, Abondance de Biens à Toulouse, à l'Allograin celui-ci, où l'Orchestre National du Capitole a proposé un programme constitué uniquement de la très belle et très longue symphonie numéro 8 d'Anton Bruckner. Mais ce que le public attendait avant tout, c'est le retour à Toulouse et à la tête de l'ensemble symphonique toulousain de son ancien directeur musical. J'ai nommé bien sûr Tugan Sokiev, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le chef russe a reçu un accueil triomphal de la part des plus de 2000 spectateurs qui remplissaient la salle, Serge.
Oui, et pas seulement des spectateurs, mais des musiciens aussi.
Ça, c'était attendu.
Donc, ça a été vraiment un véritable triomphe. Dès son entrée sur scène, ovation debout. Alors ça, j'ai jamais vu ça dans aucun concert. Là, vraiment, ce furent des retrouvailles à la fois émouvantes, parce qu'on sentait les musiciens à la fois émus et heureux, en plein sourire. Donc, ça s'est vraiment très, très bien passé. Tugan Sokiev aussi pas assez ému donc de ce retour, et il était ravi de se retrouver à Toulouse. D'ailleurs, il va de nouveau revenir à la tête de l'Orchestre National du Capitole au cours de deux concerts, et il va même revenir une troisième fois à la tête d'un petit orchestre de province qui s'appelle l'Orchestre Philharmonique de Vienne, excusez du peu, dans le cadre de la saison Grands Interprètes. Vraiment, Tugan Sokiev a repris contact avec Toulouse. Et il en est très heureux, et il le dit, et il en témoigne à tout moment. Donc, il était ici avec, à la direction de cet orchestre pour cette seule et unique œuvre. Mais quelle œuvre ? Puisque cette 8e symphonie d'Anton Bruckner, c'est quand même la plus vaste de toutes les symphonies, des 9 symphonies de Bruckner. Or, Bruckner n'est pas connu pour sa brièveté, donc...
C'est une des plus longues, même, de toutes les symphonies romantiques.
Exactement, exactement. Et l'un des mouvements, le troisième, est carrément le mouvement le plus long de toutes les symphonies romantiques
existantes.
Donc, voilà. Mais enfin, c'est pas la longueur qui en fait l'intérêt,
non.
C'est le contenu. Et donc, il faut rappeler quand même que c'est une œuvre qui a connu de multiples rebondissements, puisque la première version de 1887 a été rejetée par Hermann Lévy, qui devait faire la création de cette œuvre. Et donc, Bruckner, qui était un homme modeste, un peu timide même, l'a remanié, exactement, pour donner naissance à la version suivante de 1890. Et c'est cette version que l'orchestre a jouée sous la direction de Tugan Sokiev. Et les premières auditions de cette version ont eu un véritable triomphe, puisque certains critiques l'ont qualifié de symphonie des symphonies ou encore sommet de la symphonie romantique. Ce sont les termes utilisés par la critique à l'époque. Et puis également, on connaît l'admiration de Bruckner pour Beethoven. Il a un peu copier la 9e de Beethoven, dans ce sens qu'il a inversé le scherzo et l'adagio, comme Beethoven d'ailleurs, par rapport aux traditions de la symphonie romantique. Et puis dans le dernier mouvement, il a, comme Beethoven dans sa 9e, il a rappelé des thèmes des mouvements précédents. Donc c'est une œuvre vraiment intéressante, dans laquelle la direction de Tugan Sokiev a été très particulière, en ce sens que, contrairement à ce qu'on entend souvent, il a voulu favoriser la grande transparence de la texture instrumentale. Et donc, tout est très lisible. Ça n'est pas massif, contrairement à ce qu'on pourrait craindre avec Bruckner. Et il y a un équilibre entre les cordes et les vents qui est d'une qualité vraiment formidable. Alors, il faut quand même dire tout le bien que l'on a pu constater du pupitre des cors. Il n'y a pas moins de 9 cors quand même dans cette symphonie, dont 4 tuben, les fameux tuben wagnériens, inventés par Wagner donc à son époque pour la tétralogie, qu'il a... certains des musiciens du pupitre alternent, jouent parfois du cor, parfois du tuben, et c'était absolument magnifique avec cette sonorité qui est à la fois douce et profonde de ces tuben. Donc voilà, il y a eu une progression des 4 mouvements, et ce qu'on admire le plus dans la manière de diriger, c'était la science des crescendo. Alors le crescendo chez Bruckner, c'est fondamental. Alors il les faisait partir de très très loin pour s'épanouir dans un tout-y soit fracassant, soit se dissoudre avant le tout-y dans ce que l'on a appelé parfois ces élans inaboutis de Bruckner. C'était un grand moment, en particulier l'adagio, qui vraiment avance comme une lente et mouvante ascension vers l'extase du fortissimo. Et là, c'est un vrai fortissimo qui est ponctué par un double coup de cymbale. C'est le seul coup de cymbale de toute la symphonie. Le musicien qui tient la cymbale attend pendant à peu près trois quarts d'heure de jouer, effectivement, et de donner ces deux coups de cymbale. Alors, évidemment, ça a été une ovation du public incroyable qui a été conquis. Et il semblait que ça n'allait jamais s'arrêter, mais bon. Alors le chef a fait lever, évidemment, comme d'habitude, chaque soliste, chaque pupitre. Et puis il y a eu un moment quand il a voulu les faire tous lever. Les musiciens n'ont pas voulu se lever. Ils ont voulu que les applaudissements soient dirigés vers leur chef, Tugan Sokiev. Donc ça a été vraiment une belle soirée, à la fois émouvante et intense.
Et comme je l'ai dit, la Logrin était archi pleine.
Ah oui, absolument.
Il était attendu. Il reviendra, comme vous l'avez annoncé, le 23 mars et le 10 juin, donc en fin de saison vraiment, pour diriger l'Orchestre national du Capitole.
Ah oui, ce sera le dernier concert de la saison,
effectivement. Oui. Je crois qu'il y a une tournée en Suisse, après une petite tournée en Suisse de l'orchestre, où c'est Tugan Sokiev qui va diriger les musiciens toulousains. Donc voilà. Concernant la 8e de Bruckner, on va rappeler une fois de plus que c'est une des plus grandes symphonies romantiques du répertoire. Pour le plaisir, nous allons réécouter un extrait, la toute fin, le final du 4e mouvement Feierlich Nachtschnell, interprété par l'Orchestre philharmonique de Vienne, non pas sous la direction de Tugan Sokiev, mais de Pierre Boulez. Le final très majestueux du 4e mouvement et donc la toute fin de la 8e symphonie d'Anton Bruckner, interprétée par l'Orchestre philharmonique de Vienne, placée sous la direction de Pierre Boulez. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, vendredi 25 et dimanche 27 novembre, à la Halle aux Grains, un ciné-concert en fait donné à deux reprises sur les images de La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Le troisième concert sur lequel nous souhaitions revenir a été donné lundi, également à la Halle aux Grains, présenté par les grands interprètes qui, pour leur troisième rendez-vous de la saison, avaient invité le pianiste russe Grigori Sokolov, immense musicien déjà venu de très nombreuses fois à Toulouse, à l'invitation de cette prestigieuse saison. Comme il en a l'habitude, Sokolov a proposé un programme très fourni, avec la particularité qu'on y trouvait 9 pièces d'Henry Purcell, Serge.
Oui, oui, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais il faut reconnaître que ce pianiste est fascinant. Bon, c'est un personnage hors norme, complètement. Sur scène, il est d'une austérité incroyable, alors que dans la coulisse, il est très, très sympathique, très souriant.
Sur scène, il y a quelque chose de monacal.
Ah oui, complètement, complètement.
Mais effectivement, c'est... j'ai entendu dire que dans le privé, c'était quelqu'un de très drôle, très simple, très accessible.
Ah oui, 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 exactement. Donc c'est un homme adorable. Mais alors, la rigidité, sa rigidité sur scène, c'est, je ne dis pas la rigidité de son jeu, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est du personnage. Il a un rituel scénique pour saluer. Il a un rituel qui ne change jamais. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc
il cabotine pas, c'est sûr.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Il avait imaginé un programme incroyable puisque la première partie du programme était consacrée à des œuvres de clavecin, mais transcrites pour piano évidemment, de Henry Purcell, compositeur anglais donc.
Seconde moitié du XVIIe, donc.
Voilà,
C'est même
donc,
pas le baroque de la fin. Hein,
non. Alors on s'attendait pas du tout à voir, à entendre Sokolov dans un tel répertoire. Eh bien, c'est finalement la partie du concert que j'ai trouvée la plus convaincante. C'était incroyable. Il y avait donc 9 pièces différentes, dont 3 suites de 3 ou 4 mouvements chacune. Donc, vous voyez, la quantité de pièces séparées. Et finalement, on a eu l'impression d'une seule et unique œuvre, puisqu'il enchaînait directement. Dieu merci, on n'a pas des applaudissements. On n'a pas eu d'applaudissements entre chaque œuvre. Sinon, ça serait terrible. Donc là, bah, il a joué ses 9 œuvres avec une grâce, une légèreté qui ne correspond pas à l'allure massive du personnage. Et en particulier, l'utilisation de trilles. Mais il a joué des milliers de trilles au cours de la soirée. Avec, dans cette musique très particulière de Purcell, qui s'inspire aussi un peu de musique française, de la musique française. Et donc, avec éloquence et délicatesse. Donc, c'était très personnel, sa manière de jouer Purcell, à la fois polyphonique, avec un seul instrument, et contrapuntique, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'éléments, de fugues ou autres. Et alors, on a pu remarquer au milieu de ces pièces, une pièce que tout le monde a pu reconnaître, c'est le fameux thème repris par Benjamin Britten dans ses variations sur un thème de Purcell, cette pièce à l'usage des jeunes pour leur faire connaître l'orchestre. Et donc c'est, alors je l'indique pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la pièce qui s'appelle Round Zero en ré mineur. Donc voilà, eh ben c'est cette pièce qu'on a eu le plaisir d'entendre au milieu de ce grand répertoire Purcell. Alors la deuxième partie, c'était très différent puisqu'elle était consacrée à Beethoven et à Brahms. Alors de Beethoven, il a choisi de jouer les 14 variations et fugues en mi bémol sur un thème original. Alors c'est une œuvre qui est un peu une esquisse du dernier mouvement de la symphonie héroïque qui va venir, la troisième. Et donc, c'est un peu particulier, mais c'est un thème qu'on connaît bien.
Mais d'ailleurs, ces variations ont pour sous-titre variations héroïca.
Héroïca, exactement.
Comme la troisième symphonie sera aussi la symphonie héroïca.
Exactement.
Voilà. Mais ce sont les variations qui précèdent la symphonie, l'avez rappelé.
Oui. C'est vraiment une espèce de brouillon.
De laboratoire, un peu.
Ou d'essai. Donc, c'est incroyable. Alors là, on connaît Grigori Sokolov avec ses conceptions des œuvres, quelquefois ses partis pris. Et là, en l'occurrence, ces 15 variations, ces variations et fugues, ça se termine par une fugue, il les a jouées de manière très détachée, dans tous les sens du terme. Le toucher était staccato, vraiment très staccato.
Pas les gâteaux du tout.
Ah non, pas vraiment les gâteaux. On avait l'impression que Purcell avait déteint sur Beethoven, en quelque sorte.
C'est peut-être ce qu'il a voulu montrer, enfin oui, montrer, en tout cas faire,
Non, mais c'est
des raisons qu'il faudra lui demander l'explication.
Oui, oui, mais c'est pas impossible, ouais. Parce que c'est un intellectuel du piano, et c'est pas impossible qu'il ait tenu à faire ça. Bon, c'était un peu étrange, mais en tout cas convaincant, hein. Il défend sa conception, il la défend très bien. Et enfin, il a terminé par 3 intermédies de l'opus 117 de Johannes Brahms. Alors, c'est une pièce crépusculaire, hein, de fin de vie, à la fois dépouillée. Et là aussi, il les a jouées de manière comme détachée des contingences terrestres. Un peu, on était ailleurs, en quelque sorte. Par moments, j'ai eu l'impression d'une sorte de perfection un peu glacée. C'est très particulier, hein. C'est pas du tout comme on a l'habitude de l'entendre, mais c'est une conception qu'il défend parfaitement.
Vous dites glacé, vous voulez dire éthéré un petit peu ou...
Un peu, oui, mais comment dire, en retrait. Il ne pénètre pas de manière romantique dans l'œuvre comme certains les interprètent d'ailleurs, de manière tout à fait justifiée. Donc c'était très étonnant. Il a eu un véritable triomphe. Hein,
donc comme à chaque fois qu'il vient,
un succès incroyable. La salle était d'ailleurs très pleine.
Oui, bah oui.
Très très pleine. Et comme d'habitude, eh bien, il n'a pas lésiné pour offrir.
Il n'est pas chiche sur les bis.
Ah non, non, c'est un homme extrêmement généreux. Et donc il est venu. Et il a joué pas moins de 6 bis.
Bah, c'est le,
oui, c'est
j'allais
son,
dire le tarif.
C'est son quota.
Non, parce que c'est quasiment une troisième partie, les bis de Sokolov.
Ah oui.
6 bis.
Alors, c'est vraiment incroyable, parce que alors, dans les bis, il a joué surtout du Rachmaninov. Et il a joué d'abord 4 préludes de Rachmaninov, de l'opus 23, extrait de l'opus 23. Ensuite, il a joué un prélude de Chopin, uniquement des préludes. Et il a terminé par... un prélude de Bach, mais transcrit pour le piano par Siloti, hein. C'est ce compositeur russe qui a beaucoup transcrit l'œuvre de Bach. Et donc, il a terminé par le prélude, ce prélude donc en si mineur de Bach, Siloti. Bon, de nouveau, le public a la réclamé, mais là quand même, bon...
Oui, si c'était bien.
Si c'était le.
Après, ça aurait
été
vraiment de la gourmandise.
Oui, exactement.
C'est toujours un privilège, hein, d'entendre Grigori Sokolov en concert, même s'il vient très souvent à Toulouse. C'est indiscutablement un des plus grands pianistes actuels. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je vous propose de l'écouter dans une interprétation du 2e des 3 intermezzi, opus 117 de Johannes Brahms. Le 2e des 3 intermezzi opus 117 de Johannes Brahms, interprété par Grigori Sokolov, une des pièces au programme du concert qu'il a donné lundi pour le compte de la saison des grands interprètes. Le prochain rendez-vous est consacré au jazz dans sa version cubaine avec le pianiste Chucho Valdés et son band ce samedi 26 novembre à 20h à la Halograin. Voilà donc pour ce retour arrière. J'en profite pour refaire un appel aux dons. Si vous voulez soutenir Radio Présence, je vous invite à nous appeler au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Merci de votre générosité. Fin de cette première partie d'émission, courte virgule musicale. Et l'on se retrouve dans quelques secondes en compagnie de Serge Chosy et Robert Pénavert. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy et Robert Pénavert. J'ai rappelé en début d'émission à quel point vous étiez l'un et l'autre des fidèles de Mélomanie et de Radio Présence depuis les tout premiers numéros. Et comme c'est la semaine du Radio Don, je voulais vous demander pourquoi vous aimiez intervenir dans cette émission et pourquoi il faut soutenir Radio Présence afin que Mélomanie puisse continuer de rendre compte de la richesse et de la qualité de l'offre musicale classique à Toulouse et dans notre région. Robert Pénavert.
Je vais parler pour moi, mais je pense que Serge, te demander, pour nous c'est un grand plaisir que de répondre à vos invitations, parce que en plus je pense, quoi, je m'aventure pas trop en disant que nous sommes quasiment les seuls, Mélomanie est la seule émission qui rend compte de manière aussi exhaustive de toute l'actualité musicale de Toulouse et de la région, et en même temps je trouve que c'est un témoin, un marqueur de la richesse de la proposition musicale de Toulouse. Ça, c'est formidable. Donc, écoutez, félicitations à votre radio. Félicitations à vous, Eric, également, qui menait ça de main de maître depuis maintenant... combien vous avez dit
2017, on a commencé en septembre 2017.
Voilà. Donc, plus de 200 émissions. Vous nous supportez depuis plus de 200 émissions. Bravo. Serge, à toi.
C'est un plaisir pour moi aussi, heureusement. Hein, nous le supportons aussi.
Vous faites bien de le dire.
Non, mais Robert a dit tout ce que je voulais dire, effectivement. C'est le côté... pratiquement exhaustif des comptes rendus et des annonces. À la fois annonces et comptes rendus, donc je crois qu'il n'y a pas d'autre radio régionale qui ait un tel rythme.
Alors, pas à ma connaissance, en tout cas dans le domaine classique, celui que nous avons choisi.
Et avec ce rythme-là.
Ouais, oui, hebdomadaire. Et sur une émission qui dure près d'une heure, effectivement.
Voilà.
Mais effectivement, on voit à quel point il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a certaines semaines, on n'arrive pas à parler de tout.
Non, exactement.
Bien qu'on ait du temps pour le faire.
Nous l'avons vu encore aujourd'hui. Il y a des soirées où il y a plusieurs concerts le même soir.
Mais justement, des soirées dont on parle aujourd'hui. Et justement, ce qu'il faut dire également, je crois, c'est que le public semble revenir.
Ah oui,
dans les salles. Par exemple, le soir... De ton concert, Serge, à l'Allograin.
C'était plein à l'Allograin.
Plein à l'Allograin.
Et il y avait beaucoup de monde.
Et bien, à Saint-Pierre-des-Cuisines, et pourtant, sur des concerts un peu plus exigeants, n'ayons pas peur des mots, une soirée de sonate, violon, piano,
c'est moins grand public,
qu'une symphonie avec 100 musiciens. Eh bien, c'était plein également à Saint-Pierre-des-Cuisines. Voilà.
Ce qui est le cas aussi au Théâtre du Capitole depuis la saison dernière. Ouais. Ça a été confirmé par Rosalka, le premier opéra de la saison. Et je pense que ça va l'être aussi sans doute pour la Bohème. On va en parler dans quelques minutes. Riche, effectivement, programmation musicale, classique, lyrique à Toulouse et dans notre région. Et le public. Qui est revenu, qui suit. Et on en est très heureux. Alors, si vous souhaitez soutenir financièrement Mélomanie et Radio Présence, un seul numéro pour vos promesses de dons, le 05 62 48 63 00. Et si vous préférez faire directement un don en ligne, il faut vous connecter à notre site web www.radioprésence.com. L'agenda de la semaine à venir, on vient d'en parler, c'est avant tout les premières représentations de la Bohème à l'Opéra National du Capitole. Il va y en avoir 8 entre le 26 novembre et le 4 décembre dans une nouvelle production mise en scène par André Barbe et René Doucet. L'opéra de Giacomo Puccini, ça va sans dire, est évidemment un grand classique du répertoire lyrique. Mais depuis combien de temps ne l'avons-nous pas entendu à Toulouse, Robert Pénavert, monsieur la mémoire vivante de l'opéra à Toulouse?
Écoutez, je me souviens pas, je sais, mais je n'en ai aucun souvenir, que la première représentation a lieu en 1899.
Alors, Serge s'en rappelle peut-être, vous n'étiez pas
Oui, peut-être.
On n'a pas dû le rater de beaucoup.
Il est sans pitié, Serge. Bon, on va se venger. Oui. Voilà, non, mais c'était vraisemblablement en 1889, c'est-à-dire trois petites années Après la création mondiale.
Après la création,
hein. Voilà, ce qui est quand même pas mal, ce qui montre que le théâtre du Capitole a toujours été un temple de l'art lyrique en France. Voilà. Et depuis, tous les 4 ou 5 ans, c'était donné au théâtre du Capitole. Donc aujourd'hui, on assiste à peu près à la 26e reprise, par représentation, reprise depuis la création de cette bohème au théâtre du Capitole. Alors il y a eu un creux, puisque là, de 12 ans, puisqu'effectivement la dernière fois que...
C'est en 2000 donc.
En 2010.
2010,
voilà, la dernière fois que Mimi est morte dans les bras de son Rodolphe, c'était en 2010. C'était une production qui a fait un peu parler d'elle en définitive, puisqu'elle était très intéressante. C'était un grand homme de théâtre, et Dominique Pitoisé, qui mettait en scène.
Oui.
Ah oui. Donc c'était très beau, mais il fallait passer le pas. En définitive, nous étions au milieu, souvenez-vous, il y a 12 ans, il y a eu une vague de ce qu'on appelait les Don Quichotte, hein, c'est-à-dire les personnes SDF, malheureusement, qui s'abritaient sous des tentes, que ce soit à Paris, au long du canal Saint-Martin, ou à Toulouse, enfin, dans toutes les grandes villes. Voilà. Bon. Et donc, le metteur en scène avait pensé mettre l'histoire de ces bohèmes, justement, dans ces tentes de Don Quichotte. Voilà. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde, alors que c'était pas sans intérêt, loin s'en faut. Voilà. Et il y avait une excellente distribution vocale, puisque je rappelle que la Mimi, c'était Carmen Giannattasio qui, elle, chantait des Verdi, de grands Verdi. Et il y avait un jeune ténor de 26 ans, Théodore Ilinkai, qui depuis fait une carrière internationale. Un colline magnifique du René Hernández, qu'on n'a pas revu malheureusement depuis, et il y avait un Marcello qu'on va revoir cette année au Théâtre du Capitole, un immense baryton uruguayen qui s'appelle Dario Solari et qui cette année au Capitole participe en deuxième distribution, c'est-à-dire le niveau de ces distributions, de la Traviata, puisqu'il chante Germont. Voilà. Donc, l'histoire du... Alors, il faut dire que dans l'histoire, évidemment, de cette bohème au Capitole, il y a quand même quelques grands noms, puisque je rappelle que quand même l'un des plus célèbres Rodolphe du Capitole, c'est Roberto Alagna. Roberto Alagna, évidemment. Mais qui a eu fort à faire au cours de les reprises auxquelles il a participé, parce qu'il y avait un jeune, malheureusement on n'entend plus parler de lui, il a dû passer à autre chose, un jeune ténor américain qui s'appelle Stephen Mark Brown, et qui avait également chanté Werther au Capitole de manière absolument somptueuse, et puis bon, il a disparu des radars, on ne sait plus ce qu'il est devenu, voilà. Et Roberto Alagna chantait avec Leontina Vadova, quand même, ça faisait aussi des distributions.
Oui,
voilà.
Fabuleux.
Et à une époque, alors je ne vous en souvenez peut-être pas, mais nous avons eu Katia Ricciarelli qui est venue chanter Mimi. Voilà, voilà, voilà.
C'est
voilà.
Pas dans les années 80, ça
C'était dans les années 90.
90.
Voilà. Et, puis auparavant, c'était chanté en français. Ouais, et à cette époque-là, nous avions tout le Gotha. Du chant français. Alors, je remonte aux années 60, là. Hein. Et il y avait Alain Vanzeau, Jean Dupuy, André François, André Guyot, Hélène Garetti, Michel Dins, Yves Bisson, Caroline Dumas.
Ceux qui ont connu cette époque, effectivement, verront à quel point c'était effectivement la fine fleur du chant lyrique français de l'époque.
Ouais. Et à cette époque, on parlait de l'opéra. Avec le titre comme titre La vie de Bohème.
La vie de Bohème,
oui.
Voilà.
Ouais.
Alors, on faisait référence au texte de Meurger. Voilà,
original.
La pièce de Meurger. Voilà. Bon, voilà. Donc, il y aurait mille choses à raconter
bien entendu.
On en
arrive à la production 2022, est une nouvelle production. Un mot peut-être déjà sur les metteurs en scène.
Alors, c'est pas tout à fait une nouvelle production, puisqu'elle a été créée à Glasgow en 2017. Et elle est signée d'un duo un peu comme Moshe Leiser et Patrice Courier. Pareil, ils travaillent toujours ensemble tous les deux. C'est pour la mise en scène, c'est Renaud Doucet. Voilà. Et pour les décors et costumes, c'est André Barbe. Voilà. Donc,
première au Capitole, je crois, pour ce duo.
Alors, tous les deux, c'est la première fois, qui sont invités au Capitole. Alors, vous allez voir, nous sommes loin d'une production un peu provocatrice comme la précédente. Mais elle se passe Elle se passe en 1920, en définitive. Voilà. Et vous allez voir, il y a... Alors, je rappelle simplement que lorsque Puccini a écrit cet ouvrage, pour interpréter Musette, et il avait pensé à une chanteuse de café-concert. Mmh. Et évidemment, son éditeur, Ricordi, a refusé pour tout un tas de raisons. Voilà. Mais ça n'a pas échappé à ce duo de producteurs, René Doucet et André Barbe, et dont vous allez voir qu'il y a, je ne vous dis pas quand, hein, mais il y a un accordéon sur scène. Enfin, je vous laisse la surprise, mais c'est plein de bon sens, c'est très intelligent ce qu'ils font, et finalement, c'est un peu un clin d'œil à ce que voulait Puccini au départ. Voilà.
Une œuvre originelle.
Enfin, est-ce qu'il aurait souhaité.
Oui, mais ce qu'il avait originellement souhaité.
Oui, qu'il n'a pas pu faire.
Voilà. Il n'est pas allé au bout de ses idées, mais en tout cas, c'est ce qu'il avait voulu.
Voilà. Alors, les deux castings de cette bohème, alors, sont un véritable festival de découvertes et aussi intéressant de prise de rôle.
Oui.
Voilà. Alors...
une des marques de cette saison d'ailleurs 22-23, beaucoup de prises de rôle.
Beaucoup de prises de rôle, mais alors ça n'a rien d'étonnant parce que tous les chanteurs de la planète le savent. Quand ils veulent prendre un rôle et le faire sérieusement, ils viennent au Théâtre du Capitole. Pourquoi ? Parce que le Théâtre du Capitole leur propose quasiment un mois de répétition. Aucun théâtre.
Oui, oui.
Et
depuis là aussi, c'est une particularité.
Depuis l'Opéra de Paris jusqu'au Métropolitain de New York. Propose ça. C'est quasiment impossible. Au Capitole, ils ont plus que le temps. Ils ont également les équipes pour faire ça. Et je pense en particulier à quelqu'un que nous connaissons tous les trois très bien, qui est le chef de chant du Capitole, Robert Gonella, qui est un véritable trésor en matière vocale. Voilà. Et connaissance de la voix et connaissance de la psychologie des chanteurs, ce qui est très intéressant également et important. Donc, cela dit, lorsqu'il y a des prises de rôle en rafale comme ça, il faut un chef. Parce que sinon, les chanteurs sont un peu perdus, ils sont stressés. Est-ce qu'on va avoir les bons départs quand il faut ? Il ne faut pas un chef qui découvre la partition en même temps qu'eux. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, Christophe Christi nous présente un jeune maestro italien qui a 31 ans, je crois. À ma connaissance, c'est le plus jeune chef d'orchestre qui a été invité dans la fosse du Capitole.
Oui, c'est très très jeune, effectivement. Oui. Les chefs qui ont la trentaine.
31 ans, c'est très jeune.
Ça alors, remonte à très loin
dit,
le dernier.
Il ne dirige pas depuis hier. Oui, voilà. Oui. Il dirige depuis quelques années. Il a déjà.
Et notamment cette œuvre.
Et notamment La Bohème et également d'autres œuvres, des Grands Verdi, des Rossini, des Bellini. Alors, très clairement, c'est le répertoire transalpin. Ça, oui, c'est oui, sûr. Oui. Il le connaît. C'est dans son ADN. Ça. On le sent très clairement. Et il connaît l'œuvre. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques chanteurs de cette production. Ils nous ont dit, c'est merveilleux. Il ne regarde pas la partition. Il la connaît comme s'il l'avait imprimé dans la tête. Et pour nous, m'ont-ils dit, c'est extrêmement rassurant. Voilà. Donc, il s'appelle Lorenzo Passerini. Et la rumeur dit que c'est certainement l'un des tout premier grand chef de répertoire lyrique italien
actuel.
Des années...
Et à venir.
Des années à venir, voilà. Alors ensuite, il faut penser aux chanteurs quand même. Donc, alors, les découvertes au Capitole, enfin du moins pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est d'abord les deux ténors. Un ténor arménien qui s'appelle Hyperit Avetisian, c'est un ténor qui a un répertoire qui est finalement un peu... au-dessus, on va dire, de Rodolphe La Bohème, puisqu'il a l'habitude de chanter des très grands Verdi, comme Radamès, enfin, des choses comme ça, mais bon, nous allons bien voir ce qu'il fait. Puis il y a un Azeri qui s'appelle Azer Zada, et qui lui est beaucoup plus, semblerait-il, dans son répertoire de ténor lyrique, évidemment. Hein. Et tous les deux donc, font leur premier pas au Théâtre Capitole pour leur premier Rodolphe. Ensuite, il y a aussi un baryton basse italien qu'on va découvrir, qui s'appelle Matteo Perrone, qui chante deux petits rôles, Benoît et Alcindoro, mais deux petits rôles importants dramatiquement. Alors, voilà, permettez-moi Eric, d'ouvrir une petite parenthèse à la mémoire d'un chanteur toulousain, le baryton basse Jacques Calatayud, qui était prévu pour faire ces deux rôles, de même qu'il était prévu pour les reprises des Noces de Figaro cette année. Et malheureusement, il nous a quittés le 14 novembre dernier. Ben, nous pensons évidemment bien à lui. Voilà. Et je pense que ces représentations lui seront dédiées. Voilà. Alors, ensuite, il y a d'autres prises de rôle en rafale. Je reviens sur ce terme parce que j'en ai pas d'autres. Hein. Mais là, cette fois, pour des artistes maison, c'est-à-dire des artistes que l'on connaît. Deux sopranos pour Mimi, Vanina Santoni et Anaïs Constant. Deux autres sopranos pour Musette, Marie Perbos, tout le monde se souvient de sa folie dans Platé. C'est le nom du rôle, la folie.
Et qui sera formidable dans Musette, je pense.
Et j'en suis Musette, persuadé. Et puis, franchement, Eric, je ne peux pas tout spoiler, mais...
Oui, oui, voilà. Mais on sait de quoi elle est capable.
Je ne vous en dis pas plus, ceux qui ont eu la...
On aura la chance d'avoir un très beau numéro de Marie Perbos.
La bonne idée de... Oui. d'assister à son mini du Capitole, voilà, savent de ce dont elle est capable. Et ensuite, comme autre Musette, Andrea Soari, qui est également une très belle soprano. On va découvrir, on va pas le découvrir, mais enfin, un peu quand même, un jeune baryton russe, Mikhail Timoshenko. Alors, on va pas le découvrir exactement, puisqu'il avait participé déjà à la saison d'été du Théâtre du Capitole. Ah oui. On l'a vu une fois dans un récital. Et là, nous allons le découvrir. C'est un magnifique artiste qui a fait ses classes au studio de l'Opéra de Paris, à l'Académie de l'Opéra de Paris également. Voilà. Et au rang des retrouvailles, alors des gens que l'on connaît parfaitement et des gens qui ont interprété déjà les rôles, il y a Jérôme Boutillier dans Marcello. Qu'on a vu dans Yenoufa. Et c'est un baryton magnifique. Julien Véronèse et Guillaume Worms qui se partageront colline.
C'est des habitués de la maison.
Habitués de la maison. Et dans le rôle de Chonard, Edwin Fardini, que l'on connaît également. Il était dans Le Barbier. Il nous a fait un midi du Capitole. Super. Voilà. Donc, plein de promesses, mais vraiment plein de promesses. Et une distribution très jeune, finalement.
Oui.
Et en fait, pour qu'une bohème marche, franchement, c'est ce type de distribution.
Il faut de l'énergie, et du dynamisme et de l'enthousiasme.
Et des équipes. Qui chantent ensemble et pas chacun dans leur coin.
L'esprit de troupe aussi au Théâtre du Capitole, qui a été installé par Christophe Grécy et qui perdure.
Absolument.
Il y a quelques duos célèbres dans la bohème, notamment celui entre Rodolfo et Marcello à l'acte 4. Le voici, interprété ici par Jérémy Dufaux et Jérôme Boutillier. Le duo de l'acte 4 de la bohème entre Rodolfo et Marcello, interprété par Jérémy Dufaux et Jérôme Boutillier. Jérôme Boutillier tiendra le rôle de Marcello dans une des distributions de la nouvelle production de l'opéra de Puccini à l'Opéra National du Capitole du 26 novembre au 4 décembre. Il y a 8 représentations, mais je vous conseille de vite réserver vos places que c'est déjà bien rempli. Comme je l'ai indiqué lors de la première partie de cette émission, l'Orchestre National du Capitole donne un ciné-concert en fin de semaine à la Halle au Grain, à 2 reprises, vendredi à 20h puis dimanche à 17h. Notre cher ensemble symphonique va accompagner la projection de La Ruée vers l'or, le film de Charlie Chaplin, dont la musique a été en partie composée par le célèbre créateur et interprète du personnage de Charlot, enfin composée par Chaplin, pas tout seul quand même, hein, tout à fait, à Serge Chauvy.
Non, effectivement, il se fait accompagner, puis il reprend souvent des thèmes connus. Hein. Donc, mais l'idée vient de lui quand même, il faut quand même...
C'est inspiré, oui, à chaque fois par lui.
Hein. Ah oui, oui, absolument. Et donc là, l'orchestre sera dirigé par Timothy Brock, donc un chef un peu spécialisé dans ce genre d'activité.
Hein.
Oui, ouais. Voilà.
Qui est spécialisé dans la pratique d'interprétation orchestrale des films muets des années 1920-1930 et qui est lui-même, je crois, compositeur.
Et donc, on reverra après un siècle, puisque ça fait presque un
1925,
siècle.
1925, oui.
Oui, presque un siècle que le
film a été tourné en 1925.
Créé, ouais.
Un cinéma très dans la veine sociale de l'œuvre de Chaplin, hein, entre autres, avec quelques morceaux de bravoure.
Ah, oui.
La fameuse danse des petits pains, je pense que tout le monde voit les images,
hein, ouais.
de Charlot qui rêve, en fait, il est en train de rêver, qu'il est dans un dîner mondain alors qu'il est dans sa cabane misérable et il pique des petits pains avec une fourchette et il improvise une espèce de danse, de pantomime,
ouais.
Un des extraits les plus célèbres des films de Chaplin, eh bien, la voici, cette fameuse danse des petits pains où, comme je le disais, Charlot s'est endormi, il est en train de rêver à la table de sa petite cabane et il croit qu'il est en train de participer à un dîner au milieu de femmes du monde et il improvise donc cette chorégraphie en faisant danser des petits pains qu'il a piqués avec des fourchettes. Voilà, la danse des petits pains, extrait célèbre de la musique du film La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin, une musique que va interpréter l'Orchestre National du Capitole sous la direction du chef américain Timothy Brock pour accompagner la projection du film. C'est vendredi 25 à 20h et dimanche 27 novembre à 17h à la Halle au Grain, bien sûr. Pour y assister, vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup à tous les deux, Serge et Robert, d'en avoir été les invités et d'y avoir apporté, encore une fois, votre passion et votre érudition. Je refais un dernier appel aux dons à nos auditeurs, à tous ceux qui veulent soutenir cette émission et notre radio. Pour vos promesses, je vous invite donc à appeler le 05 62 48 63 00 ou à faire un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. D'autre part, je rappelle que l'événement Bypass, le forum international de la création musicale, a lieu en ce moment à Toulouse jusqu'au 1er décembre, essentiellement au Ring, mais aussi à Saint-Pierre-des-Cuisines et à la Cinémathèque. Il y a là aussi un ciné-concert. La programmation, les dates et lieux de concert sont disponibles à l'adresse www.studio-eol.com. Et enfin, si vous voulez découvrir la nouvelle production, pas tout à fait nouvelle production, de La Bohème à l'Opéra National du Capitole, l'opéra de Giacomo Puccini y est donc représenté 8 fois du 26 novembre au 4 décembre. Les réservations et la billetterie sont accessibles à l'adresse www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro. dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité. Excellente semaine musicale à tous.